Chapitre 5. L'idée du bien et du mal existe dans l'humanité. L'homme, quelque degré de développement intellectuel qu'il ait atteint, quelque obscurci que soient ses idées par les préjugés et l'intérêt personnel, considère généralement comme bon ce qui est utile à la société dans laquelle il vit, et comme mauvais ce qui lui est nuisible. Mais d'où vient cette conception, très souvent si vague, qu'à peine pourrait-on la distinguer d'un sentiment ? Voilà des millions et des millions d'êtres humains qui jamais n'ont réfléchi à l'espèce humaine. Ils n'en connaissent pour la plupart que le clan ou la famille, rarement la nation, et encore plus rarement l'humanité. Comment se peut-il qu'ils puissent considérer comme bon ce qui est utile à l'espèce humaine, ou même arriver à un sentiment de solidarité avec leur clan, malgré leurs instincts étroitement égoïstes ? Ce fait a beaucoup occupé les penseurs de tout temps. Il continue de les occuper, et il ne se passe pas d'année que des livres ne soient écrits sur ce sujet. À notre tour, nous allons donner notre vue des choses, mais relevons en passant que si l'explication du fait peut varier, le fait lui-même n'en reste pas moins incontestable. Et lors même que notre explication ne serait pas encore la vraie, ou qu'elle ne serait pas complète, le fait, avec ses conséquences pour l'homme, resterait toujours. Nous pouvons ne pas nous expliquer entièrement l'origine des planètes qui roulent autour du Soleil. Les planètes rouleront néanmoins, et l'une nous emporte avec elle dans l'espace. Nous avons déjà parlé de l'explication religieuse. Si l'homme distingue entre le bien et le mal, disent les hommes religieux, c'est que Dieu lui a inspiré cette idée. Utile ou nuisible, il n'a pas à discuter. Il n'a qu'à obéir à l'idée de son Créateur. Ne nous arrêtons pas à cette explication, fruit des terreurs et de l'ignorance du sauvage. Passons. D'autres, comme Hobbes, ont cherché à l'expliquer par la loi. Ce serait la loi qui aurait développé chez l'homme le sentiment du juste et de l'injuste, du bien et du mal. Nos lecteurs apprécieront eux-mêmes cette explication. Ils savent que la loi a simplement utilisé les sentiments sociaux de l'homme pour lui glisser, avec des préceptes de morale qu'il acceptait, des ordres utiles à la minorité des exploiteurs contre lesquels il se rebiffait. Elle a perverti le sentiment de justice au lieu de le développer. Donc, passons encore. Ne nous arrêtons pas non plus à l'explication des utilitaires. Ils veulent que l'homme agisse moralement par intérêt personnel, et ils oublient ces sentiments de solidarité avec la race entière qui existent, quelle que soit leur origine. Il y a déjà un peu de vrai dans leur explication. Mais ce n'est pas encore la vérité entière. Aussi, allons plus loin. C'est encore et toujours aux penseurs du XVIIIe siècle qu'il appartient d'avoir deviné, en partie du moins, l'origine du sentiment moral. Dans un livre superbe, autour duquel la prêtraille a fait le silence et qui est en effet peu connu de la plupart des penseurs, même anti-religieux, Adam Smith a mis le doigt sur la vraie origine du sentiment moral. Il ne va pas le chercher dans des sentiments religieux ou mystiques, il le trouve dans le simple sentiment de sympathie. Vous voyez qu'un homme bat un enfant. Vous savez que l'enfant battu souffre. Votre imagination vous fait ressentir vous-même le mal qu'on lui inflige. Ou bien ses pleurs, sa petite face souffrante vous le disent. Et, si vous n'êtes pas un lâche, vous vous jetez sur l'homme qui bat l'enfant. Vous arrachez celui-ci à la brute. Cet exemple, à lui seul, explique presque tous les sentiments moraux. Plus votre imagination est puissante, mieux vous pourrez vous imaginer ce que sent un être que l'on fait souffrir. Et plus intense, plus délicat sera votre sentiment moral. Plus vous êtes entraîné à vous substituer à cet autre individu, et plus vous ressentirez le mal qu'on lui fait, l'injure qui lui a été adressée, l'injustice dont il a été victime, et plus vous serez poussé à agir pour empêcher le mal, l'injure ou l'injustice. Et plus vous serez habitué, par les circonstances, par ceux qui vous entourent, ou par l'intensité de votre propre pensée et de votre propre imagination, à agir dans le sens où votre pensée et votre imagination vous poussent, Plus ce sentiment moral grandira en vous, plus il deviendra habitude. C'est là ce qu'Adam Smith développe avec un luxe d'exemples. Il était jeune lorsqu'il écrivit ce livre, infiniment supérieur à son œuvre sénile, L'économie politique. Libre de tout préjugé religieux, il chercha l'explication morale dans un fait physique de la nature humaine, et c'est pourquoi, pendant un siècle, la prêtraille en soutane, ou sans soutane, a fait le silence autour de ce livre. La seule faute d'Adam Smith est de n'avoir pas compris que ce même sentiment de sympathie, passé à l'état d'habitude, existe chez les animaux tout aussi bien que chez l'homme. N'en déplaise aux vulgarisateurs de Darwin, ignorant chez lui tout ce qu'il n'avait pas emprunté à Malthus, le sentiment de solidarité est le trait prédominant de la vie de tous les animaux qui vivent en société. L'aigle dévore le moineau, le loup dévore les marmottes, mais les aigles et les loups cèdent entre eux pour chasser. Et les moineaux et les marmottes se solidarisent si bien contre les animaux de proie que les maladroits seuls se laissent pincer. En toute société animale, la solidarité est une loi, un fait général, de la nature, infiniment plus importante que cette lutte pour l'existence dont les bourgeois nous chantent la vertu sur tous les refrains, afin de mieux nous abrutir. Quand nous étudions le monde animal et que nous cherchons à nous rendre compte de la lutte pour l'existence soutenue par chaque être vivant contre les circonstances adverses et contre ses ennemis, nous constatons que plus le principe de solidarité égalitaire est développé dans une société animale et passé à l'état d'habitude, plus elle a de chances de survivre et de sortir triomphante de la lutte contre les intempéries et contre ses ennemis. Mieux chaque membre de la société sent sa solidarité avec chaque autre membre de la société, mieux se développent en eux tous ces deux qualités qui sont les facteurs principaux de la victoire et de tout progrès. Le courage d'une part, et d'autre part la libre initiative de l'individu. Et plus, au contraire, telle société animale ou tel petit groupe d'animaux perd ce sentiment de solidarité, ce qui arrive à la suite d'une misère exceptionnelle, plus les deux autres facteurs du progrès, le courage et l'initiative individuelle, diminuent. Ils finissent par disparaître et la société, tombée en décadence, succombe devant ses ennemis. Sans confiance mutuelle, point de lutte possible, point de courage, point d'initiative, point de solidarité et point de victoire, c'est la défaite assurée. Nous reviendrons un jour sur ce sujet et nous pourrons démontrer avec luxe de preuves comment, dans le monde animal et humain, la loi de l'appui mutuel est la loi du progrès. Et comment l'appui mutuel, ainsi que le courage et l'initiative individuelle qui en découle, assurent la victoire à l'espèce qui sait mieux les pratiquer. Pour le moment, il nous suffira de constater ce fait. Le lecteur comprendra lui-même toute son importance pour la question qui nous occupe. Que l'on s'imagine maintenant ce sentiment de solidarité agissant à travers les millions d'âges qui se sont succédés depuis que les premières ébauches d'animaux ont apparu sur le globe. Que l'on s'imagine comment ce sentiment peu à peu devenait habitude et se transmettait par l'hérédité, depuis l'organisme microscopique le plus simple jusqu'à ses descendants, les insectes, les reptiles, les mammifères et l'homme. Et l'on comprendra l'origine du sentiment moral qui est une nécessité pour l'animal, tout comme la nourriture ou l'organe destiné à la digérer. Voilà, sans remonter encore plus haut, car ici il nous faudrait parler des animaux compliqués, issus de colonies de petits êtres extrêmement simples, l'origine du sentiment moral. Nous avons dû être extrêmement courts pour faire rentrer cette grande question dans l'espace de quelques petites pages, mais cela suffit déjà pour voir qu'il n'y a là rien de mystique ni de sentimental. Sans cette solidarité de l'individu avec l'espèce, le règne animal ne se serait jamais développé ni perfectionné. L'être le plus avancé sur la Terre serait encore un de ces petits grumeaux qui nagent dans les eaux et qui s'aperçoivent à peine au microscope. Existerait-il même, car les premières agrégations de cellules ne sont-elles pas déjà un fait d'association dans la lutte ?